On parlera de ce voilier péruvien qui est arrivé ce matin à Papeete. On vous présentera aussi le meilleur bachelier de Polynésie. Et puis les résultats du Haïva sont connus, c'est en fin de journal. Et justement, cette édition, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Kevin, bonjour à toutes et à tous.
Et on commence ce journal avec cette image ce matin dans le port.
Cette image, celle d'un voilier de 155 mètres, au mât de plus de 50 mètres de haut. Il nous vient du Pérou et il s'appelle le Bapunyon. Ce navire école a fait son entrée dans le port ce matin et il a accosté au son d'une Marseillaise chantée par la Marine nationale. Alors les autorités militaires et nationales, justement, sont ensuite montées à bord pour une visite guidée par le commandant du navire, José Luis Arce Corzo, l'ambassadeur du Pérou installé en Australie. L'Australie est également venu tout spécialement pour accueillir le bateau et faciliter la connexion avec le public et les autorités de la Polynésie française. Alors si le Bapunyon est en escale, c'est qu'il est sur la route d'un tour du monde maritime qu'il continuera ensuite pendant 10 mois vers 14 pays, passant de l'Océanie à l'Afrique, puis les Amériques et l'Asie. L'équipage est constitué de 250 personnes, dont des cadets venus apprendre leur métier d'officier. Mais ce bateau a aussi un rôle diplomatique, comme l'explique l'ambassadeur Vitaliano Gagliardo Valencia.
C'est une combinaison. Il y a une partie qui est la partie formation, il y a une partie internationale, ce sont les invitations aux marins des autres pays, mais aussi c'est l'interaction avec les gouvernements dans différents coins du monde. C'est, dans ces cas-là, c'est parfaitement une interaction avec un pays complètement ami et proche au Pérou comme la France.
Et ce bateau école, conçu spécialement pour former de jeunes matelots et qui a officiellement été lancé par l'armée péruvienne en 2016, fait aussi la fierté du pays avec sa conception moderne, ses 34 voiles dont chacune a son propre nom et sa fonction, sa technicité et sa construction made in Pérou.
Nous avons un service industriel dans la marine et ils se sont mis comme un projet professionnel qui était un challenge, que c'était une preuve d'efficacité de la construction des bâtiments. De faire un bâtiment comme celle-ci dans ses propres services, qui démontre qu'ils sont capables d'utiliser de la modernité dans la communication, l'utilisation des logiciels et comment les faire et montrer dans le monde, quand ce type de visite, qu'on peut les faire et on peut les faire bien.
Et le public peut venir admirer ce navire exceptionnel qui reste à Papeete jusqu'à dimanche. Il suffit de se présenter à l'embarcadère avec sa carte d'identité entre 10h et 17h30 demain vendredi et samedi de 10h à 15h30.
Et on a parlé de voile, parlons de glisse maintenant.
Et oui, et des Jeux Olympiques de surf, plus précisément avec le premier comité de pilotage de l'épreuve sous la mandature de Moeté Brotherson. Il a eu lieu ce matin à la présidence. L'État, le pays, les Tavana, mais aussi Paris 2024 en visioconférence ont donc fait un point d'étape sur l'organisation de l'épreuve. À l'ordre du jour, la sécurité des individus, la sûreté, les infrastructures, mais aussi l'hébergement des athlètes. Souvenez-vous, depuis février dernier, l'accueil des surfeurs sur le site de l'ancien hôtel de Puunui, un temps envisagé, a été abandonné à une solution qui implique un bateau de croisière. Cela se confirme et une étude d'impact a été diligentée par les organisateurs. Les précisions de la ministre des Sports, Naïma Temari.
Il va y avoir des missions sous-marines pour aller vérifier ce qu'on dit ou ce que les plans disent. Donc réellement, j'ai confiance en Paris 2024 parce que je sais à quel point c'est important pour eux de venir tout simplement respecter et repartir avec le cœur léger en sachant pertinemment qu'ils n'ont pas complètement détruit les espaces et nous y veillerons.
Et le pays a surveillé justement sur le respect de l'aspect environnemental et veut aussi faire de cet événement un succès populaire. Il s'agit aussi, selon la ministre, d'un véritable tremplin pour la Polynésie et les Polynésiens qui vont pouvoir développer leurs compétences puisque des emplois sont à pourvoir dans le cadre de ces Jeux. Elle parle d'ailleurs de retombées économiques directes qui sont déjà chiffrées. Écoutez.
Tout ça, ça a un coût. Ben, j'ai envie de vous dire que tout a un coût, mais les seuls éléments que je peux vous donner, par exemple, ce sont les retombées économiques directes chez les familles polynésiennes de Teiarapu Ouest qui s'élèvent aujourd'hui à plus de 230 millions générés par Paris 2024. Et quand on se dit qu'aujourd'hui, au titre de l'hébergement, au titre des transports maritimes, au titre des water patrol, on va directement apporter du pain sur la table de nos familles, comment vous voulez que j'y croie pas?
Et les parties prenantes de l'événement sont donc en ordre de marche et d'autres réunions sont d'ores et déjà programmées. En attendant les Jeux Olympiques, le spot se prépare à accueillir la Tahiti Pro, c'est prévu au mois d'août.
Et on poursuit avec ce chiffre.
19,46, c'est la moyenne générale décrochée par Keanu Toofa lors des épreuves du bac. À 17 ans, ce lycéen de Papala est le major de Polynésie 2023. Il était invité hier dans les jardins de l'Assemblée pour recevoir une médaille en compagnie de 211 autres élèves qui ont tous décroché la mention très bien. Cadet d'une fratrie de 3 enfants, il fait la fierté de toute sa famille. Vaitiare Gobré l'a rencontré hier.
Honnêtement, je suis vraiment surpris et ravi en même temps reconnaissant parce que être majeur, c'était pas vraiment un objectif en soi, c'était plus un challenge peut-être avec mon frère. Comme ça, dans le coin de la tête, quand j'y pense, et je me suis jamais dit que j'allais être majeur cette année, mais ça fait toujours plaisir de voir que tous nos efforts, toute cette régularité, cette constance dans le travail, elle paye et elle nous permet de se dépasser nous-mêmes.
Voilà, Keanu Toofa, un jeune homme bien dans sa tête et bien dans ses baskets qui intégrera dès la rentrée prochaine une prépa de Bordeaux dans l'espoir de devenir contrôleur aérien. C'est cette ambition qui le motive à travailler depuis un stage effectué à l'aviation civile lorsqu'il était au collège.
Cette expérience, elle m'a vraiment marqué. C'est cette expérience qui m'a encouragé aussi à poursuivre mes études dans le domaine de l'aéronautique. Et donc à partir de là, j'avais déjà un objectif bien précis, bien tracé pour mon avenir presque. Et donc en arrivant au lycée, je savais déjà que je voulais être ingénieur, que j'avais déjà une appétence pour les matières scientifiques. J'étais vraiment passionné par ça. Et donc tous mes choix se sont faits naturellement.
Voilà, le major de promo 2023 du bac en Polynésie qui avait choisi les spécialités de mathématiques, sciences physique chimie et sciences de l'ingénieur.
Et après ce futur contrôleur aérien, parlons aviation justement. Les hôtesses et stewards d'Air Tahiti Nui ont repris le travail.
Oui, après une dernière session de négociation, la 9e en autant de jours de grève, un protocole d'accord a été signé hier soir à la présidence entre la CSIP, Atia Imua et la direction d'ATN. Il prévoit la hausse de certains temps d'escale mais aussi le lancement d'un cycle d'audit et de réorganisation du travail des PNC ou encore la généralisation d'une prime dite d'équipage réduit. Mais c'est sans surprise la question financière qui a fait durer les débats ces derniers jours. L'accord revoit donc nettement à la hausse les grilles du salaire de base des stewards et hôtesses, avec des augmentations pouvant atteindre les 47 000 francs bruts chez certains agents. Des revalorisations qui s'inscrivaient dans un cadre fixé lundi par Moetei Brotherson après sa reprise en main des négociations.
Je suis quelqu'un de constant, donc quand j'ai annoncé dès le début des discussions auxquelles j'ai participé qu'il y avait une enveloppe et qu'on n'en sortirait pas, eh bien on n'en est pas sorti, on est resté dans cette enveloppe.
Des limites qui avaient été mises sur la table très tôt lors des négociations. D'ailleurs, l'accord signé ne serait au final pas très éloigné de ce qui avait été proposé par la direction dans les premiers jours de la grève. Alors, 9 jours de conflit, était-ce nécessaire? Oui, pour Cyril Le Gaillic de la CSIP, pour qui il n'y avait pas grande raison de s'en plaindre.
Ceux qui râlent beaucoup, c'est les voyageurs français. Mais en France, quand on bloque tout, les TGV ou quoi que ce soit, ils râlent pas. Okay, et parce qu'ici, on fait une grève tous les 10 ans, c'est comme si c'est la fin du monde. Il faut pas exagérer aussi. Ils ont droit, comme tout citoyen français, à faire la grève. Mais ici, c'est pas comme en France, on brûle pas les magasins, on casse pas les magasins. Ici, on fait une grève tranquille, en paix.
Après ces négociations, les hôtesses et stewards ont donc repris le travail dès hier soir. Mais après 9 jours de grève et une dizaine de vols annulés, il faudra encore quelques jours pour que le programme de vol d'ATN revienne à la normale. Au moins 48 heures, parce qu'entre 1000 et 2000 passagers étaient encore bloqués hier soir, avec pour la compagnie le week-end qui approche et donc un timing serré pour ces 4 avions.
Maintenant que les gens peuvent confirmer et que le mouvement de grève est levé, ils vont repartir sur leur rotation, réhabiller les vols et gérer le backlog qui est tout ce qu'on a constitué, qui peut être 1000 à 2000 passagers, parce que certains ont annulé tout ça, refaire ce point-là et ça va être un travail qui va être fait sur les 2 prochains jours. Parce qu'on rentre dans le week-end, nos avions sont déjà très occupés à faire leur programme normal, mais Air Tahiti Nui sait gérer ces situations. Quand on a des pannes mécaniques, on se mettra en œuvre pour répondre aux attentes de nos clients et redémarrer le plus vite possible pour passer ça derrière nous.
Voilà, vous avez entendu le directeur général délégué d'ATN, Mathieu Béchonnet. Il était au micro de Charlie René.
La TVA sociale pourrait disparaître en octobre.
Oui, c'est ce qu'annoncent nos confrères de Tahiti Info dans leur édition ce jeudi. Le gouvernement envisagerait de supprimer la fameuse contribution pour la solidarité dès le 1er octobre. Les élus de l'Assemblée auraient reçu un courrier en ce sens hier de la part du président Moetei Brotherson avec un projet de loi fiscale modifiant le code des impôts. Cette disposition était attendue de la part des élus Tahiti qui envisageaient initialement de la baisser de 1 à 0,5%. Pour rappel, la TVA sociale rapporte en année pleine 8 milliards de francs aux caisses de la protection sociale généralisée.
Et puis les lauréats du Haïva sont connus.
La cérémonie de remise des prix a eu lieu hier soir à Toata. Toakura remporte le prix Madeleine Moua et devance en catégorie pro Oli Tahiti et Otahitié. Mano Hiva obtient le grand prix de son côté en catégorie amateur et pourra donc désormais participer au Haïva en tant que troupe professionnelle. Mahena Atapao de Oli Tahiti et Marama Aripeu Tilador de Otahitié sont eux sacrés meilleurs danseurs de cette édition 2023. Côté chant, Reo Papara l'emporte en Tarava Tahiti et repart avec le grand prix. Tamari Maina gagne le premier prix en Tarava Ralomatei et Tamari Kirapa obtient en plus du premier prix en Tarava Tuape le prix des meilleurs costumes. Les lauréats qui seront sur la scène de Toata demain et samedi soir. Et à noter qu'après le chant et les danses, place désormais aux jeux traditionnels. C'est à suivre demain et samedi au musée de Tahiti et des îles et dimanche au parc Paofei avec la fameuse course des porteurs de fruits.
Culture toujours, de nouveaux sites pourraient rejoindre les monuments historiques.
Oui, il s'agit du buste de Puvanaaopa sur la place Taraoi et du site Tataai Fanatea entre Faa et Punaouia. Des propositions présentées mercredi en Conseil des ministres. Alors concernant le Métoua, le gouvernement souhaite, je cite, « faire honneur à cet homme qui n'a eu de cesse de se battre pour les intérêts de sa population et de ses générations futures ». Et pour la pointe Tataa, le projet de classification se justifie par la dimension sacrée du site. Selon la tradition, l'âme des défunts est débutée son voyage vers l'au-delà. Voilà, c'est la fin de ce journal. Rendez-vous à 16h pour le retour de l'actualité. Ce sera avec le flash d'information de la rédaction.
Exactement. Merci beaucoup, Valdez.